France Culture.
Et les midis, c'est reparti. Merci de nous rejoindre. À suivre à 13h, l'invité du jour, ce sera la metteuse en scène Jeanne Candel. Mais tout de suite, c'est le retour de Marie Sorbier pour le Point Culture.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Depuis quelques années maintenant, les musées s'ouvrent aux créateurs de mode qui rivalisent d'invention pour garder le mouvement propre aux vêtements alors même qu'ils se retrouvent en vitrine. Mais quand les abattoirs à Toulouse proposent à Jean-Charles de Castelbajac d'investir leur lieu, c'est à un artiste pluridisciplinaire que l'on fait face qui use et abuse de tous les supports et de tous les matériaux. Castelbajac, 60 ans de création, c'est le dossier du Point Culture du jour. Jean-Charles de Castelbajac, bonjour.
Bonjour.
Les abattoirs de Toulouse vous consacrent une grande exposition à voir jusqu'au 23 août prochain. Je crois que c'est la première fois que vos œuvres sont présentées dans un musée d'art contemporain. Est-ce que le cadre muséal sied à la mode selon vous ?
Écoutez, le cadre muséal sied à la mode, comme la rue aussi, vous voyez. J'ai voulu en fait ramener à l'intérieur du musée, de ce musée formidable des abattoirs, la notion d'environnement. Donc c'est une immense installation avec des émotions différentes en fait. Mais oui, le musée est en mouvement, donc il convient à la mode.
L'imagination au pouvoir, c'est le titre qui a été choisi pour cette exposition. Il y a près de 300 pièces, je crois, qui sont présentées à Toulouse.
C'est ça.
C'est d'ailleurs un très très grand espace que vous avez investi. J'ai presque envie de dire presque une cathédrale.
Oui, une cathédrale. D'ailleurs, quand j'ai investi le lieu, je pensais à mon expérience de Notre-Dame pour la réouverture il y a un an, exactement. C'est 1000 mètres carrés et en fait, l'imagination au pouvoir, c'est une manière de revendiquer mon indiscipline en quelque sorte. L'imagination a toujours été pour moi la porte pour aller vers les autres, pour collaborer, pour envisager des expériences, dès le départ de ma vie en fait.
Oui, ce qu'on vous présente souvent comme un créateur qui brouille les frontières entre l'art, la mode, la pop et même le sacré, vous évoquiez Notre-Dame. Est-ce que
oui,
c'est toujours important
sûr.
Pour vous aujourd'hui, Jean-Charles de Castelbajac, de ne pas être réduit à une case ?
Cette dimension d'indiscipline qui m'a habité dès le début, en fait, dès mon premier geste créatif, lorsque j'avais 17 ans, c'est-à-dire de m'approprier tout ce qui n'était pas destiné à la mode pour en faire une esthétique vestimentaire, c'est-à-dire détourner des vieilles couvertures, détourner des tissus qui étaient mal aimés ou des tissus en voie de disparition, comme des filtres de lin. C'était une volonté aussi de, non pas de brouiller les pistes, mais vraiment d'investir dans une dimension conceptuelle ce territoire de mode qui était en général un territoire d'esthétisme essentiellement. Donc la fonction, le geste, le manifeste, tout ça est ressenti dans cette exposition.
Oui, on ressent aussi vos logiques de collage, de détournement, d'hybridation. On peut parler aussi de ready-made. Est-ce que vous avez eu conscience, depuis toutes ces décennies de création, de créer un langage plastique particulier ?
En fait, c'est l'héritage de mon enfance, je pense. C'est-à-dire qu'il y avait, chez moi, durant mes 11 années de pension, cette idée de détournement, de résistance, et sans me rendre compte que c'était déjà une écriture. Lorsqu'on est enfant et qu'on a peu de choses, on improvise, on invente. Donc j'ai toujours été dans cette espèce de détournement. Lorsque je voyais quelque chose, ou mon attachement même pour l'histoire, je voulais le faire lier à mon attachement pour le rock'n'roll. Et en fait, en créant des accidents esthétiques, on commence une écriture. Et un style, en l'occurrence. C'est ce qui est un peu le fil conducteur de toute cette exposition, puisque on passe de d'époque où je collabore avec d'autres artistes comme Kissaring, comme Robert Mapplethorpe, à des époques où j'accumule des vêtements pour en faire un manifeste écologique et anti-fourrure.
Puisque vous parlez d'écriture, vous avez un lien très particulier avec la littérature, avec le poème.
C'est ça.
Une des sections de l'exposition d'ailleurs s'y attarde. En quoi les mots et le vêtement font bon ménage ?
En fait, après un chemin d'exploration d'anti-mode, puisque c'est ainsi qu'on a qualifié ma démarche de la première décennie, puisque je n'utilisais aucun élément destiné à la mode, mon premier geste a été d'écrire sur les vêtements. Et il y a une salle qui s'appelle « Emo et moi », avec l'illustration de la musique de Vladimir Cauchemar sur des poèmes de ma femme Pauline de Castelbajac. Et l'écriture, c'est aussi quelque chose qui est une chose que je pratique dans la rue, en fait, lorsque je dessine mes anges ou lorsque j'écris des poèmes. C'est cette trace, cette notion de trace, ce lien d'inspiration que j'ai toujours eu avec la prose.
Les anges qu'on retrouve également à Toulouse, hein, je crois que vous en avez dessiné quelques-uns dans la rue.
Oh, j'en dessine dans toutes les villes que je traverse, et Toulouse est effectivement inspirante, parce que les murs sont des murs de briques, sont des murs attirants, sont des murs qui parlent. J'ai toujours cette, au travers de mon art, ce sentiment d'exploration et de mettre le visible au service de l'invisible. C'est-à-dire que j'ai toujours fait des vêtements. En fait, c'est ce dont on se rend compte à force de cette exposition, que c'est toujours des portes vers un questionnement. Et ma notion du beau est toujours liée au bizarre, est toujours liée à l'anachronisme, est toujours liée à quelque chose de troublant, plus qu'à une beauté, entre guillemets, glamour, comme on a pu l'envisager dans la mode. C'est peut-être ce qui a vraiment créé mon lien avec l'art, de faire des choses qui sont à la fois fonctionnelles et qui posent des questions.
Puisque vous parliez des anges, on se souvient que vous aviez notamment créé des vêtements ecclésiastiques. Je pense notamment à celui de Jean-Paul II, je crois que c'était pour les JMJ en 1997. Et en 2024, donc, on vous a demandé de dessiner les vêtements des officiants pour la réouverture de Notre-Dame de Paris. Ces vêtements ecclésiastiques, est-ce qu'ils ont une place à part pour vous, Jean-Charles de Castelbajac, dans votre œuvre ?
Écoutez, c'est presque un état, une aparté insulaire. C'est une expérience qui est venue vers moi à partir de 86, lorsque j'ai officié pour faire des vêtements en milieu carcéral, des vêtements liturgiques, et ensuite en 97 avec cette incroyable commande de bénévoles d'ailleurs pour mettre en scène les JMJ. Donc c'était 500 évêques avec l'arc-en-ciel, 5000 prêtres, et puis enfin le vêtement qui est devenu une relique maintenant, puisque j'ai l'émotion et l'honneur d'avoir habillé un saint, qui est Jean-Paul II. Et en fait, lorsque le pape m'a dit à la fin de cette cérémonie que j'avais utilisé la couleur comme ciment de la foi, c'est mystérieusement devenu un peu le mot d'ordre de mon geste pour Notre-Dame. En fait, en 2024, lorsque cette demande est arrivée de Monseigneur Ulrich, ça a été une grande surprise pour moi. Et il fallait un geste moderne, et surtout, entre-temps, il y avait les réseaux sociaux qui étaient arrivés. Donc, mon geste créatif a été vraiment lié aussi à la force de l'image. Comment construire des images ? C'est un peu le sens de ma vie, c'est un peu ce qu'on ressent dans la scénographie aussi de l'imagination pouvoir. C'est il y a maintenant créer, bien sûr, inventer, réaliser, et ensuite créer l'image, de sorte à ce qu'on puisse la propager et qu'elle porte un message d'espoir.
Bien, merci beaucoup Jean-Charles de Castelbajac. Je rappelle que donc la grande exposition qui vous est consacrée, l'imagination au pouvoir, se visite aux abattoirs à Toulouse jusqu'au 23 août prochain. Merci beaucoup.
Merci, je vous attends nombreux. Au revoir.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, deux nouvelles nominations à la tête du CNAP et de la MEP.
Oui, c'est Martin Berthenot qui a été choisi pour diriger le Centre National des Arts Plastiques, succédant ainsi à Béatrice Salmon. Après avoir dirigé jusqu'en 2021 la Bourse de Commerce à Paris, Martin Berthenot a publié en juillet dernier un rapport commandé par le ministère de la Culture sur le renforcement de la scène française d'art contemporain. Sa nomination a lieu dans un contexte tendu suite à la publication d'un rapport de la Cour des comptes appelant au démantèlement du CNAP. Il devra par ailleurs accompagner l'installation de l'établissement en 2027 dans un nouveau bâtiment à Pantin, en Seine-Saint-Denis. Quant à elle, la Maison européenne de la photographie à Paris vient de nommer à sa tête Julie Jones pour remplacer Simon Baker, licencié en septembre suite à des problèmes de management. Julie Jones était conservatrice au cabinet de la photographie du Centre Pompidou depuis plusieurs années. Elle a annoncé vouloir continuer de surprendre les visiteurs de la MEP à travers une programmation éclectique, faisant la part belle aux jeunes générations tout en développant la recherche au sein du musée.
Et pour finir, Marie, le Théâtre des Amandiers à Nanterre va enfin rouvrir ses portes après 4 années de travaux.
Oui, initialement prévu le 25 octobre dernier, avant d'être reporté à cause de plusieurs retards sur le chantier, la réouverture du Théâtre Nanterre Amandiers aura finalement lieu ce jeudi 18 décembre. Transformé par le cabinet d'architectes Noëta, le bâtiment bénéficiera à présent de 3 salles de spectacle et de 4000 m² supplémentaires. L'inauguration se fera le jour de la première du nouveau spectacle de Joël Pommerat, Les Petites Filles Modernes, titre provisoire. Et que ce spectacle sera visible jusqu'au 24 janvier prochain.
Merci Marie, on se retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles. À demain.